Aujourd'hui, nous allons parler de l'épiphanie du Seigneur et nous sommes avec l'abbé Philippe Beitia. Bonjour et meilleurs vœux.
Bonjour et mes meilleurs vœux à vous et à tous nos auditeurs.
Alors, dimanche dernier, nous avons célébré dans notre pays l'épiphanie, mais dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays, on célèbre l'épiphanie du Seigneur le 6 janvier.
6 janvier est la date traditionnelle. Autrefois, avant le concile, on s'en tirait, pour ainsi dire, avec ce qu'on appelait des solennités extérieures, c'est-à-dire qu'on célébrait le 6 janvier l'Épiphanie, et pour d'autres fêtes, fête Dieu, c'était la même chose, le jour où ça tombait, le jour de semaine. Et le dimanche suivant, on redisait la messe de l'Épiphanie. Donc, voilà, pastoralement, bon, voilà, le concile, après le concile, la réforme liturgique a laissé deux options. Celle du 6 janvier, parce qu'il y a un tas de pays où ce jour est férié, comme l'Espagne, comme le Vatican par exemple, et d'autres. Et pour que la communauté chrétienne puisse contempler et vivre ce mystère, la seconde option, c'est que c'est donc le second dimanche après Noël.
Pour beaucoup, dès qu'on parle de l'épiphanie, on pense au roi mage, à la galette. Mais l'épiphanie, c'est beaucoup plus que l'épisode des rois mages qui visitent l'enfant Jésus dans la mangeoire à Bethléem.
Alors, en Occident, ceux qui célèbrent la liturgie des heures se rendent compte qu'il y a deux antiennes, celle du cantique évangélique du matin, du Benedictus, du cantique de Zacharie, et celle du cantique évangélique du soir, du Magnificat de la Vierge Marie, qui insiste sur le fait que cette fête a trois aspects. Il y a donc l'adoration des mages, il y a le baptême de Jésus, et il y a les noces de Cana. Mais, quand on y regarde d'un peu plus près, la liturgie de la messe et le reste de la liturgie de l'office, c'est quand même l'adoration des mages qui a pris le pas, si on peut dire, sur les deux autres aspects de l'épiphanie. Ceci étant, bien voilà, déjà un peu avant la réforme liturgique du Concile, le 13 janvier, on célébrait l'octave de l'épiphanie, mais on voyait que les textes étaient ceux concernant le baptême du Christ. Et le dimanche d'après, on lisait les noces de Cana. C'est un peu ce que nous avons aujourd'hui. Le dimanche de l'Épiphanie, le dimanche qui suit celui de la fête du baptême du Seigneur, et le dimanche, donc le second dimanche du temps ordinaire de l'année A, on lit les noces de Cana. Donc on essaie de tenir ces trois aspects de l'Épiphanie de manière un peu diffractée.
Arrêtons-nous sur ce terme d'Épiphanie. C'est un mot qui vient de quelle langue?
C'est du grec. C'est un terme qui veut dire manifestation. Vous voyez, on parlait dans une précédente émission de l'Avent, l'Adventus, l'Épiphania, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est la venue d'un grand personnage, bon, bien sûr, d'un personnage politique dans le monde gréco-romain, de l'empereur, d'un gouverneur, de personnages de ce type. Donc voilà, c'est donc la manifestation donc, du Fils de Dieu. Pour ce qui nous concerne.
On peut dire que l'épiphanie donc se révèle dans trois moments de la vie du Christ.
Alors, oui, si on regarde la liturgie d'un peu plus près, si vous allez à la messe en semaine, la semaine après l'épiphanie, tous les évangiles choisissent, manifestent une manifestation d'un des aspects de la vie ou du ministère de Jésus. Donc on a voulu faire, bien sûr, plus ample. Mais, en fait, traditionnellement, ce sont ces trois aspects qui sont mis en lumière.
Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce qui s'est passé donc avec les mages. Je dis bien les mages et pas les rois mages.
Effectivement, on les a, pour ainsi dire, couronnés dans la tradition chrétienne. Si vous allez à Milan, vous avez le sépulcre des rois mages. Il est vide parce que leurs reliques sont à Cologne. Bon, donc voilà. Bon, ces mages sont devenus des rois à cause de ce qui est dans le psaume 71, voilà, que les rois de la terre viendront adorer Dieu. Voilà. Non, mais voilà, ces mages qui devaient être très sûrement des savants de l'Antiquité, sûrement de régions proches d'Israël, bon, voilà, ont été couronnés et, de plus, symboliquement, dans la tradition de la crèche, ben, vous savez, il y a un mage qui est blanc, l'autre qui est noir et l'autre qui est jaune, pour manifester que ce sont toutes les races de la terre qui sont appelées à rencontrer le Christ.
Est-ce qu'ils s'appelaient vraiment Melchior, Balthazar et Gaspard ?
D'une part, l'Évangile nous dit des mages, elle ne nous dit pas qu'il y en avait trois. D'autre part, elle ne nous donne pas les noms, mais il a bien fallu les nommer, et donc la tradition chrétienne leur a donné ces noms-là.
Il n'y a qu'un évangéliste qui raconte cet épisode de l'adoration des mages à la grotte de Bethléem.
Oui, c'est saint Matthieu, je crois au chapitre 2 de saint Matthieu, qui le raconte. Mais bien sûr, quand saint Matthieu le raconte, c'est pas pour nous donner des souvenirs de l'enfance de Jésus, c'est parce que pour saint Matthieu, bien sûr, quand on lit son évangile, bien voilà, le Christ est appelé à être connu par des païens. Donc quand saint Matthieu nous rapporte l'épisode des mages, il nous dit que cela a commencé très tôt, puisque Dieu, par cette fameuse étoile, a attiré des étrangers à la crèche qui sont venus reconnaître Messie et adorer l'enfant Dieu. Donc voilà, la théologie de Matthieu, qu'on trouve dans l'Évangile, à la fin, hein, vous savez, voilà, toutes les nations faites des disciples, est déjà présente dans l'épisode des mages.
Dans cet évangile, il y a plusieurs symboles. Bon, bien sûr, il y a l'étoile.
L'étoile. L'Antiquité considérait que les étoiles, c'était des divinités. Donc, voilà, là, c'est une étoile. Il y a un aspect un peu polémique. C'est une étoile qui est mise par Dieu au service des mages pour qu'il rencontre son fils. Donc, ça veut dire que l'étoile est une créature et pas une divinité céleste. Vous noterez que la lumière de l'étoile, ce n'est ni le jour à son zénith, la pleine lumière, ni la nuit la plus sombre. Et donc, l'étoile est aussi le signe de la foi, où nous avons la lumière suffisante pour cheminer vers le Christ.
Alors ensuite, il y a bien sûr les cadeaux que font les mages à l'enfant Jésus. Donc il y a ces présents que sont...
L'or, l'encens et la myrrhe.
L'or, l'encens et la myrrhe. Parce qu'il y a un ordre bien précis.
Il me semble bien. Effectivement, ce n'est pas des cadeaux pour un bébé. Hein, c'est... Quand on offre des choses à un bébé, aujourd'hui, c'est des petits chaussons, des petits vêtements. Bon. Donc ce sont bien sûr des cadeaux symboliques qu'on retrouve, dans les psaumes, voilà. Lors de Saba et de Séba. Voilà, l'encens qui brûle dans le temple à des heures de prière données, mais qui est le signe de la divinité. Et la myrrhe, on voudra oindre le corps de Jésus, mais le corps mort, mais on n'y arrivera pas. Donc voilà. L'Église nous fera dire que l'or est offert à cet enfant parce qu'il est le grand roi. L'encens est offert à cet enfant parce qu'il est le vrai Dieu. Et la myrrhe annonce, bien sûr, comme il m'est arrivé de le dire déjà ici, en même temps sa passion, mais puisqu'on n'a pas pu oindre le cadavre de Jésus de myrrhe, également sa résurrection.
Les mages mentent à Hérode en disant qu'ils n'ont pas trouvé l'enfant.
Les mages ne mentent pas à Hérode. Hérode, quand les mages, avant de rencontrer le Christ, quand les mages viennent le voir, c'est parce qu'ils savent que le Messie est né à cause de ce signe de l'étoile, et parce que bon, cette espérance d'Israël a été connue des peuples environnants. Hérode, bien sûr, y voit, bon, d'une part, va faire rechercher où doit naître Messie. C'est là que nous avons la fameuse prophétie de Michée. Toi, Bethléem, Ephrata, comme lieu de naissance du Messie, fils de David. C'est aussi le lieu de naissance du roi David. Et puis, donc, Hérode va voir un rival dans cet enfant. Et donc, dit au mage, c'est Hérode qui ment. Hérode dit, ben voilà, dites-moi, quand vous l'aurez trouvé, où il est, comme ça j'irai l'adorer, mais avec l'idée, bien sûr, de le supprimer. Les mages partent. C'est l'ange qui leur fera prendre un autre chemin pour le retour.
Alors, cette phrase, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin, c'est aussi très symbolique.
D'une part, il y a ça. D'autre part, comme parfois les fins de certains évangiles, à l'annonciation, l'ange de l'Akita, par exemple, ça veut dire que la Vierge Marie va vivre sa vie ordinaire et sa vie de foi, comme tout le monde. Et là, ils vont reprendre un autre chemin, parce que, bien sûr, cette rencontre avec l'enfant Dieu a éclairé leur esprit, leur cœur, et changé leur vie. Et donc, c'est un autre chemin dans leur vie que prennent les mages, dans cette perspective.
C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns et les autres en ce début d'année. Merci à vous, Abbé Philippe Baïtien.